Salut, 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 vous êtes au fond près du radiateur comme tous les mardis soirs, 19h, 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Et on vient de s'écouter en intro de cette émission l'ADA, c'est Redoublant, le titre du morceau est Big Dédicace à Grand Homme qui nous a sorti cette petite perle qui allait bien avec l'esprit de notre émission. Voilà, on est bien sur FPP 106.3 FM. Et puis, on va commencer cette émission par faire une grosse dédicace aux personnes qui sont présentes. D'abord, voilà, il y a Mado
ouais,
à ma droite.
Ça ira plus vite, on est en équipe réduite ce soir.
Exactement, salut.
Salut.
Il y a Mathéo et Meto dans le bocal.
Ouais, on est là.
Salut, salut.
Puis, on est avec des camarades de Mannheim aussi qui sont là. Et Berlin aussi, voilà. Donc d'Allemagne, Gaston et Alain qui prendront un peu la parole à un moment donné dans l'émission. On va vous expliquer pourquoi. Voilà, le sommaire aujourd'hui, ça va être d'abord en première partie, comme annoncé précédemment, on va vous faire écouter donc un extrait de la conférence de presse qu'il y a eu le 8 février 2012 dernier, donc dans le quartier du Lutte à Gennevilliers, concernant le combat autour de la vérité et de la justice pour Jamal après son décès donc au mitard de la prison de Nanterre début octobre 2011. On y reviendra assez longuement dans l'émission avec donc bien sûr du son de Gennevilliers. Et puis on passera aussi donc la parole aux camarades d'Allemagne qui nous feront un point justement sur les initiatives à venir autour des questions des violences policières et des crimes racistes et sécuritaires et de la violence policière en général, on va dire. Et puis dans une deuxième partie dans cette émission, on parlera donc de ce qui se passe en Grèce avec un entretien téléphonique avec une camarade franco-grec qu'on a réalisé vendredi dernier en studio dans les locaux d'FPP. On vous en dit pas plus, c'est assez fourni, il y aura plein d'infos intéressantes, plus des témoignages, donc il y aura un gros point sur ce qui se passe en Grèce contre justement l'austérité et cette lutte contre la rigueur. Et puis en fin d'émission, on reviendra sur un appel un peu insolite, mais qu'on va pas prendre à la légère, mais justement on en discutera un peu. Ça vient de Occupy Auckland et ça appelle à une grève générale internationale. Voilà, on vous en dit pas plus, on vous en parlera en fin d'émission.
Alors, si vous voulez télécharger les émissions et écouter notre émission, donc c'est au fond près du radiateur.fr. Et si vous avez envie de nous donner des remarques, nous donner des infos qu'on se chargera de diffuser, etc., c'est au fond près du radiateur, @no-log.org. Voilà.
Et puis, pour finir cette intro, on va quand même faire une grosse dédicace à tous les camarades de l'émission qui ne sont pas là. Il y a Tiffen, Raph, Meto, Mouloud, Sarah, Olive. Et puis,
je crois que c'est bon, on a fait
ça. Je crois que c'est bon, on a fait ça. Tous ceux qui ne sont pas là, on leur fait un gros bisou. Et voilà, donc on va commencer cette émission. On vous avait dit qu'on était allé prendre du son donc mercredi 8 février à Gennevilliers, dans le quartier du Lutte. On va pas revenir parce qu'on en a déjà parlé longuement des conditions donc du décès de Jamal au quartier disciplinaire de la prison de Nanterre, donc le 3 octobre 2011. On avait reçu déjà la famille et les proches qui avaient longuement témoigné dans cette émission. Voilà, la mobilisation continue. Ça va être un combat long, déjà pour obtenir justice, parce que c'est un des seuls en tout cas combats dans lesquels se retrouve la famille et les proches et tous les gens qui veulent lutter autour de cette question. Et bien sûr, il y aura des prochaines échéances autour de la mobilisation du collectif Vérité et Justice pour Jamal. Tout de suite, on va s'écouter donc l'extrait de cette conférence de presse où on va entendre notamment une personne de la famille de Jamal qui va revenir sur les conditions de la mort de Jamal. Et on va entendre aussi notamment Salah qui lui aussi témoigne d'une histoire donc de la mort de son fils en 96 dans la prison de Bois d'Arcy. On écoute le son tout de suite. Ce mercredi 8 février 2012, dans le quartier du Lutte à Gennevilliers, se tenait une conférence de presse organisée par le comité Vérité et Justice pour Jamal. Suite à quelques déboires avec la municipalité pour obtenir la salle, le collectif a finalement pu se réunir.
Je voulais absolument remercier les jeunes du quartier du Lutte parce que quand on est venu de la part de la famille ou voir les institutions, leur écrire des mails pour demander des salles, parce que nous ce qu'on demande c'est une réelle contre-autopsie une vraie. Le médecin, il croit pas que tu as une angine. Il le sait, c'est scientifique. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une réelle contre-autopsie avec toutes les pièces de... Enfin, avec tous les éléments de la contre-autopsie. Donc quand on a fait cette demande à la mairie nous a baladés avec la bourse du travail parce qu'ils ne voulaient pas que ça se passe à l'intérieur du quartier du Lut, parce qu'ils ne veulent absolument pas qu'on s'organise. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on pleure, qu'on soit triste et qu'on se taise, qu'on rentre chez nous. Au moins, les jeunes du Lut nous ont proposé, eux, une salle. Une salle qui s'appelle le local, apparemment. Une salle qui s'appelle le local. La police a cru qu'on allait faire la salle là-bas, parce que nous, on leur a dit non, il y a un avocat, il faut qu'on se fasse les choses dans les règles, parce que, en fait, ils ont créé une initiative, eux tout seuls, les jeunes. Ils ont pris un local, parce que la mairie leur donne rien, c'était un local qui était administratif, pour pas que les jeunes y restent dans le froid, pour qu'ils puissent lire, il y avait un coin lecture, un coin télé, c'était un lieu d'échange, comme par hasard, il y a deux jours. Deux jours, tous les jeunes se sont fait interpeller. Le lieu est fermé. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'on allait faire la réunion là-bas. C'est voir à quel point ils ne veulent pas qu'on s'organise. Et je voulais vraiment vous remercier. Vraiment. Mes frères, mes soeurs, merci. On parle beaucoup sur vous. On dit que vous êtes des animaux. On dit que vous n'avez pas de moralité. C'est vous qui en avez le plus.
En fait, on n'a pas été invités ce soir, ici. Exactement. On a occupé les lieux. Parce qu'en fait, on n'avait pas de lieu. Donc du coup, on n'a pas été invité, on n'a pas été
invité. Voilà.
On s'excuse si ça provoque des désagréments, exactement, parce que nous, on fait les malins, mais après, nous, on ne sera pas au Lut. Et il y a des personnes qui vont peut-être subir des conséquences, mais...
On va subir des conséquences comme le local, on va pas lâcher.
Voilà, exactement. Donc du coup, on est venu, on a occupé le lieu parce qu'on voulait être là dans le quartier ce soir. Donc voilà, donc juste pour avant de laisser la parole à Haliba, qui elle présentera l'affaire, juste dire voilà, nous un peu qui on est dans le collectif Vérité Justice pour Jamel Al-Rahmo, nous on est là pour venir en aide dans un premier temps à la famille et puis pour s'occuper un peu de donner un coup de main à tous ceux qui ici veulent s'organiser, veulent faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à la maison d'arrêt de Nanterre. En octobre 2011. Donc voilà, Haliba parlera donc des faits. Maître Bouzoulou, Inch'Allah, arrivera à temps pour présenter, pour dire où en est exactement l'enquête et où en est la procédure. On peut dire juste un petit mot, puisqu'on est tous là, sur la mairie de Gennevilliers, qu'on a sollicité, sans se faire d'illusions, mais on les avait contactés. La famille était allée les voir, enfin, beaucoup de gens... qui sont ici, on les a contactés pour aller voir la mairie dans un premier temps, pour leur dire ce qu'ils savaient déjà, c'est-à-dire qu'il y a eu un décès, que les gens du quartier, que la famille, que les proches, que les soutiens souhaitaient se réunir, et donc et qu'il fallait tout simplement on fasse droit à cette demande, c'est-à-dire que c'est pas une faveur qu'on leur demandait, on leur disait juste, voilà, les habitants du quartier du Lut, ils ont droit à une salle, et donc normalement, ils auraient dû mettre à disposition une salle à la mairie de Gennevilliers. Et au lieu de ça, ils nous ont banané un petit peu, ils nous ont un peu baladé, ils nous ont proposé plusieurs options que nous, forcément, on allait refuser, comme la bourse du travail. On leur a dit que c'était pas une réunion de syndicalistes ou je sais pas quoi, donc on aimerait bien que ce soit dans le quartier. Et après, en fait, ils sont allés jusqu'à même nous proposer la salle du cimetière. Voilà, ils nous ont dit, puisqu'il s'agit d'un mort, et puisque vous voulez commémorer, allez au cimetière. Donc voilà, sachant que Jamel Al-Rahmo, il est enterré au Maroc. Et que voilà, ils sont allés jusqu'à être suffisamment en confiance pour nous dire d'aller au cimetière faire notre commémoration. Donc on n'est pas allé au cimetière comme vous le voyez tous. Et donc rien que pour ça, je vous remercie que ça ait pu se faire ici dans le quartier du Lut. Parce que c'est normal, Jamel Al-Rahmo habitait ici, sa famille habite ici, les habitants sont ici et c'est normal qu'on se réunisse là où les gens habitent, et pas ailleurs, pas à la bourse du travail, ou je ne sais dans quelle autre salle, un gymnase ou un cimetière. Donc voilà, donc je vais passer la parole à Haliba, et puis après moi je reprendrai la parole après Salah pour faire le point juste sur le collectif, et puis sur d'autres affaires qui ont pu avoir lieu récemment.
Pour finir justement, c'est par rapport à ce que disait Rafik, donc par rapport à la mairie, moi je voulais juste rajouter que le maire et la maire adjointe au logement étaient venus à la maison pour nous demander... de calmer les jeunes dans la cité, c'est ce qu'on a fait. Donc là, en retour, eux, ils ont même pas voulu savoir pour comprendre pourquoi et nous donner une salle. Enfin bref. Donc moi, je voulais vous parler de Jamel, donc de son vivant, l'Ermo. Donc c'était quelqu'un qui avait la joie de vivre. Donc le suicide, ça, nous, on n'y pense pas parce que c'était quelqu'un qui était très accompagné dans sa vie par rapport à sa famille, par rapport à ses amis. Donc il était beaucoup entouré. Et donc il avait une petite amie, il venait d'avoir un appartement, donc sa petite amie venait le voir 3 fois par semaine, toutes les semaines, donc elle n'a jamais manqué un jour de parloir, donc tant qu'elle pouvait y aller, elle y allait, et donc il lui demandait même de lui ramener des magazines pour pouvoir justement meubler leur futur logement. Donc voilà, nous on a été surpris le jour où, donc le 3 octobre, où la prison de Nanterre nous a appelés à 17h50 exactement pour nous dire que Jamel venait de se suicider dans sa cellule au Mitard. On n'a pas compris ce qui s'est passé puisqu'on ne nous a jamais expliqué. Donc apparemment, lui, il était à l'hôpital depuis 1h de l'après-midi. Donc tout s'est passé le matin, on a attendu 18h pour nous appeler, on ne sait pas pourquoi. Donc, on ne nous a pas donné plus d'éléments que ça. En fait, ce qui s'est passé, donc, il a été retrouvé mort dans sa cellule. Donc, quand le SAMI est arrivé, ils l'ont réanimé pour ne pas mourir en prison. Donc, il a été transporté à l'hôpital de Nanterre par la suite. Donc, il est mort à l'hôpital de Nanterre. Donc, c'est quelqu'un qui, tellement il aimait la vie, et ben, il est resté quand même 5 jours dans le coma en mort cérébrale. Donc je crois qu'il a essayé lui aussi de s'accrocher jusqu'au bout. Donc pendant 5 jours, nous on a pu être avec lui en espérant justement qu'il revienne, bien qu'en sachant que c'était irréversible. Donc grâce à ça justement, on a pu prendre des photos de son corps où il n'y avait aucune trace autour de son cou, mais beaucoup d'hématomes partout dans son corps. Donc il y avait des liens de maintien, des maintiens aussi... De mains, puisqu'il y avait la trace de ses mains, de mains justement apparentes sur son corps. Tout ça, nous, le suicide, on n'y croit pas. Si on est là aujourd'hui et si on va se battre justement, même si ça va durer des années, et ça, on le sait, puisque justement, on a vu beaucoup de gens, donc Salah qui est là avec nous, il vous dira, il vous parlera lui aussi de son long combat. Il a mis 12 ans justement avant de connaître la vérité. Il l'a connu au bout de 12 ans, donc nous aussi, on sait que ça sera un long combat et c'est pour ça qu'on espère vraiment que vous serez tout le temps avec nous, tous, autant que vous êtes jusqu'au bout, autant les journalistes, les gens de la cité et puis tous ceux qui peuvent nous accompagner. Hein. Je vais passer le micro à Salah. Ben, il va vous expliquer lui qui il est et puis bon, si j'ai oublié quelque chose, c'est sûr que j'en ai oublié, je reviendrai... Et j'en reparlerai. Merci beaucoup.
Bonsoir, salam alaikum. Donc, moi je suis Salah Zawiya et j'habite à Mantes-la-Jolie. Il y a un ami qui m'a parlé de l'affaire de Jamel Ermo, donc je suis venu avec lui pour voir la famille. Et là, j'ai tenu à être présent par solidarité et pour soutenir la famille, les amis et vous tous. Je vais essayer de vous parler de ce qu'on appelle l'affaire de mon fils, Jérôme Mahmo, qui est mort en 96 à la maison d'arrêt de Bois d'Orcy. Il avait 20 ans. Donc le 8 juillet 96, il y a eu la mort d'un jeune chez nous, parce qu'il était coursé par les gendarmes. Il y a eu des émeutes. 2 jours après, les policiers viennent avec le commissaire et tout pour arrêter Jérôme et tous les grands du quartier. Il s'est retrouvé devant un juge à Versailles, au tribunal de Versailles, qui l'a mis en détention provisoire. Donc à Bois d'Arcy, c'était la première fois qu'il allait là-bas. Il s'est retrouvé avec 2 autres jeunes de son âge. Il y en a un qui s'est énervé la nuit du 22 au 23 juillet 1996. Jawad est resté que 2 jours en prison. Donc il s'est énervé pour un changement de cellule. Il a appelé le surveillant qui a essayé de parlementer avec lui. C'est passé à 1h20, c'était la nuit. Hein. Parlementer avec lui pour lui dire qu'il fallait se recoucher et qu'il allait voir le matin. Et Abdallah s'est énervé donc. Il a mis ses menaces à exécution. Il a pris les matelas et tout, il a mis le feu. Le gardien était là, il n'avait pas de la cellule, il n'avait pas de clé du local anti-incendie. Le temps d'aller appeler le gradé qui se retrouvait dans l'autre bâtiment, Et revenir, bah, ils ont ouvert la cellule, ils étaient morts asphyxiés. Le troisième a survécu parce qu'il a mis la tête dans la fenêtre. C'est une fenêtre pour une tête. Après, on m'a dit, ça veut dire que il est mort, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça y est, enterrez-le et fermez-la, quoi. Excusez-moi de vous le dire, mais ils avaient l'habitude de voir. C'est pas parce qu'on est des Maghrébins d'origine ou des Blacks et tout, mais comme il n'y a personne qui bougeait avant, peut-être, ils avaient pris l'assurance de nous garder, quoi. Il y avait deux solutions. C'était soit laisser les jeunes, c'était les émeutes, brûler, casser, et 3, 4 ou 5 mois après, j'aurais dit oublier. Ou alors, une autre solution, je crois que c'était la plus intelligente, c'était de s'organiser et de se battre intelligemment. Ça veut dire porter plainte. S'organiser, c'est de... Avec tout le monde, avec ses copains, avec tous les gens du quartier, partout en France, partout... C'est ce qu'on a fait. Donc on a porté plainte avec constitution partie civile, et là, a démarré le combat. Parce que moi, le jour même, le 23 juillet, quand le directeur m'a appelé, j'ai fait le serment à mon fils. J'ai dit, oh, t'es parti, mais moi, je fais le serment. Je me battrai jusqu'au dernier souffle. Il faut casser ce truc-là, c'est pour ça. Bon, je vais continuer après, mais c'est pour ça qu'on est tous ensemble. C'est pour soutenir la famille, parce que le combat, il va être long. Tiens, il faut être près d'eux dans des démarches administratives et autres. Donc, on a mené le combat. J'ai milité au MIB, mouvement d'immigration et des banlieues. On s'est créé en association à l'époque avec d'autres familles qui ont perdu un fils, une fille ou un cousin et tout. Et on s'est créé en association en 99 déjà, qu'on a appelé les familles en lutte contre l'insécurité et l'édition en détention. Et chez nous, à Mantes, on a créé l'association qu'on avait appelée en 98 déjà, Justice pour Jérôme. Le pénal n'a rien donné, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé, quoi. Ils ne peuvent rien, il fallait pas condamner l'État, il ne fallait pas condamner l'administration pénitentiaire. Donc on est parti au tribunal administratif. La première audience, c'était catastrophique. La commissaire, c'était une jeune femme du gouvernement, c'est une espèce de procureur, hein, qui nous a débouté tout. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de faute, c'était la faute à personne. Et même, elle a osé dire que si Jawad est mort, c'est la faute à pas de chance. On a fait appel, on appelle quand même. J'ai pris la parole, c'était une nouvelle, c'était une première. Les juges ont compris la douleur et tout, donc ils ont commencé à reconnaître les fautes. Ils ont condamné l'État pour 3 fautes, plus 15 000 euros. Mais on s'en fiche, ce n'est pas le sujet de l'argent. Pascal Clément, c'est l'ancien ministre de la Justice qui est arrivé juste après Rachid Dati. Il a fait un pourvoi en cassation parce que ça lui dérange la reconnaissance des fautes, parce que c'est des jurisprudences. Et jurisprudence veut dire que après l'État va être condamné sur tout, à chaque fois il y a un drame. Donc, pour être bref, on s'est battu encore et le Conseil d'État, s'il vous plaît, le Conseil d'État a condamné l'État pour 3 fautes. Ça veut dire le système d'évacuation des fumées, le surveillant qui n'avait pas de clé, la cellule de 9 mètres carrés, 3 jeunes ou pas jeunes dedans, donc plus le commissaire du gouvernement. Et il a dit comment ça. C'est une aberration qu'un surveillant qui a la nuit, qui n'a même pas de clé du local anti-incendie, qu'est-ce qu'il risque? Il risque rien du tout, il ne va pas se faire lyncher pour... Il est là, surtout le seul local là, c'est pour sauver les vies. On s'est battu avec l'UNIB, avec l'OIP, avec plein d'associations, plein de militants et tout. Donc on a eu la chance, et il y a eu des journalistes qui ont osé faire des articles, c'est soit les journaux, enfin je ne vais pas les nommer, celui-là, en soutien à la famille, aux amis, c'est un long combat. La famille a besoin de tout le monde, il faut être solidaire, et sans solidarité, ils ne vont pas tenir le coup. Ils ne vont pas tenir, parce que moi je connais des familles au bout d'un an, 2 ans, 3 ans le maximum, c'est fatigant, c'est usant. Ben voilà, s'il n'y a pas de soutien, on ne peut arriver à rien du tout. Ben voilà, merci de m'avoir écouté, et surtout, il faut le soutien à la famille.
Et je voulais rajouter des choses parce que je vous avais dit que j'avais oublié beaucoup de choses. Que je voulais dire aussi, c'est vrai que le jour où Jamal a été transporté à l'hôpital de Nanterre, donc le 3 octobre, Sarah avait parloir avec lui, donc elle était présente quand il y avait la police, les pompiers dans la prison. On lui a dit que son permis était annulé sans savoir, sans lui dire que Jamal venait juste d'être transporté dans une ambulance à l'hôpital. Donc on l'a laissé attendre des explications qu'elle n'a jamais eues jusqu'à 6h moins quart. Et en fait, au moment où elle est partie, ça a été à ce moment-là que la directrice de la prison nous a contactés, nous. Donc ils ont attendu que Sarah parte de la prison pour contacter la famille, alors qu'elle était sur place et on aurait pu lui dire justement voilà ce qui vient de se passer. Quand il a été transporté à l'hôpital, donc il est resté là-bas pendant 5 jours, donc nous on a eu beaucoup à faire avec le personnel hospitalier. La plupart des infirmiers et des médecins étaient choqués. Donc ça c'est le terme que deux infirmiers nous avaient dit. Donc ils étaient choqués par la situation dans laquelle était Jamal, puisqu'il était en mort cérébrale et menotté sur son lit d'hôpital. Donc pour eux, c'était inadmissible. Ils ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Et en plus, quand les policiers rentraient dans la chambre, ils rentraient avec l'arme à la main, alors qu'il était en mort cérébrale. Donc mort cérébrale, ça veut dire qu'il ne va jamais se réveiller. On attend juste que son cœur parte pour pouvoir éteindre toutes les machines. On a demandé une deuxième autopsie. Donc la deuxième autopsie, alors là, ils énumèrent aussi les coups, sans dire par contre par rapport à la première que les coups, c'est lui qui se les était fait tout seul. Et donc il conclut à une mort par pendaison, alors qu'ils n'ont pas les éléments principaux pour conclure à cette mort, en sachant que le premier institut médico-légal avait enlevé les organes à Jamal et ne les ont pas remis en même temps que le corps pour pouvoir faire la deuxième autopsie. Hein. Donc là, les deux autopsies, elles sont un peu bâclées, entre guillemets, hein, en sachant aussi que Jamal mesurait dans les 1m88, je ne peux pas vous dire exactement, mais je sais qu'il était assez grand. Hein. La première autopsie, ils mettent qu'il mesure 1m83, donc comme par miracle, il a grandi pendant sa mort, il a pris 7 cm en 15 jours à peu près, hein. Donc il mesurait après 1m90 à la deuxième autopsie, donc c'est bizarre, moi je ne savais pas qu'un mort grandissait. Hein. Jamal devait passer aussi en appel le 12 octobre, donc quelques jours après sa mort. Donc il espérait vraiment avoir, je ne sais plus comment on dit, de la prison en moins. Donc lui, il était sûr qu'il allait bientôt sortir et il était très heureux justement de sortir. Mais c'est vrai qu'il ne pensait pas qu'il allait sortir sur une civière. Quelques semaines avant sa mort, Jamal, il disait justement à Sarah qui venait le voir en prison... Il lui disait qu'il sentait très très mal, donc il était tout seul dans sa cellule et qu'il se sentait très mal, que les surveillants étaient bizarres avec lui, qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais ça, c'était la phrase de Jamal, ils me veulent et ils m'auront, donc ils vont me mettre au mitard, mais ce n'est pas grave, Sarah, ramène-moi plein de magazines pour quand j'irai au mitard, je serai tranquille et je vais apprendre bien ma religion. Donc Sarah avait ramené plein de livres, donc les livres elle les a récupérés encore fermés, puisqu'il les a jamais lus malheureusement. Donc voilà, Jamal sentait que ça allait mal se passer, et ce qu'il a senti, ça s'est réellement passé, sauf que lui il savait pas qu'on allait le tuer, qu'en fait les surveillants étaient là pour le tuer. Donc c'est vraiment un meurtre prémédité. Hein. Donc nous la famille, on est certain que c'est un meurtre prémédité. Donc maintenant, on attend juste que la justice fasse son travail. Donc comme elle a toujours fait en mettant plein de gens en prison, en nous disant la vérité et en nous disant ce qui s'est passé le 3 octobre à la prison de Nanterre. Voilà, et merci.
En fait, l'avocat, il ne pourra pas venir parce qu'il a été appelé. Là, il est en train de s'occuper de quelqu'un qui est en garde à vue. Et en fait, ce qu'il aurait dit, donc, Maître Yacine Boudrou, il est requis au Quai d'Orfèvre et présente ses excuses à la famille déjà. Et après, bon, la plainte a été déposée contre X lundi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il attend du doyen des juges d'instruction de lui transmettre la contre-expertise qui confirmerait cette thèse. car le procureur de Nanterre refuse pour l'instant de lui communiquer le dossier. Il espère que la maison d'arrêt de Nanterre prendra cette requête au sérieux, cette affaire, et qu'ils coopéreront. C'est ce qu'il espère en tout cas. Des témoignages laissent penser que c'est un problème fréquent là-bas, à la prison de Nanterre. C'est pas la première, c'est, malheureusement, ce n'est pas la première affaire de ce genre qui se passe. Donc, ce qui serait bien, c'est que nous, s'il y a de la presse ou, et même de bouche à oreille, c'est qu'on lance un appel, le comité, pour que s'il y a des faits similaires qui se rapprochent de la famille et qui viennent avec la famille pour témoigner, pour faire la démonstration que c'est pas la première affaire, malheureusement, et les aider aussi à se mobiliser, pourquoi pas. C'est ce qu'il dit l'avocat ce soir, il s'excuse encore.
Inch'Allah, vous continuerez parce qu'on a la famille a besoin de vous. La famille a besoin de vous. Travaillez tous ensemble, intelligemment. Ça veut dire là aujourd'hui on est là pour la contre-autopsie. Là, demain on sera là pour autre chose. Inch'Allah, on ira commémorer pour les six mois de Jamal. Et ce qu'il faudrait penser aussi, c'est que on arrête de dire qu'il est mort à l'hôpital. Il n'est pas mort à l'hôpital. C'est pas ce jour-là. On va faire un truc dans deux mois, Inch'Allah, pour commémorer les six mois, le jour où il est mort à la prison de Nanterre. Et ça, c'est très important.
Excuse-moi, Ayed, je veux juste préciser une chose. Il n'est pas mort. Parce que mort, on meurt naturellement. Exactement. Il a été tué. Il faut rester là-dessus.
Exactement. Excuse-moi, Ramata, c'est vrai, c'est un crime. C'est un crime d'État. C'est de la violence d'État. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'avance pas main dans la main. C'est pour ça. Les mamans, il faut qu'elles soutiennent leurs jeunes. Les jeunes, il faut que vous soutiennent les mamans. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pas en faisant des émeutes. On va envoyer des jeunes, nos frères, au casse-cul, 15 ans ferme, comme Vili Lebel. C'est ce qu'ils veulent, les frères. Je suis pas en train de dire la violence, c'est mal. C'est pas ça, mon discours. On n'obtient rien sans rien. Juste, venez, on fait les choses intelligemment. Avec nos mamans, avec nos sœurs, avec nos frères, avec nos pères. Et c'est comme ça qu'on y arrivera, Inch'Allah.
Tirer de l'or, des débris d'une épave. Les faux filons m'épuisent, ma musique se brise. Comme un os sur l'enclume, voilà le jus de ma plume. On y trouve des airs de chlorure et des capsules de cyanure. Et puis des oiseaux morts qui peuplent encore l'Algérie qui me coule du corps à l'heure des pénuries. Je manque pas d'appétit et ma violence fleurit. Des lits d'ortie couchent avec l'ennui, se lèvent au pied du bruit. Et oui, j'ai des pleines poubelles de crépuscules sans ciel que je viens vider au seuil du paradis tel quel. C'est apprendre à ne pas laisser, à écouter jusqu'en chier. C'est moi, lui, nous, et nos trajectoires de chien loup. C'est apprendre à ne pas laisser, à écouter jusqu'en chier. C'est moi, lui, nous, et nos trajectoires de chien loup. De sourire, je n'en ai pas besoin. Se travestir va si bien au putain. De l'indigène de service, je me torche avec le mode d'emploi. Venu de la crasse, des Porsche et des sans-emploi. Je n'ai pas un brin d'humanité pour ces rats déshydratés qui au prorata des quotas s'usent pour se faire accepter. Sans baisser ni regard ni froc, à chaque époque c'est tabou. Sans avoir à se mettre au garde à vous, sans atout ni joker et sans l'œil du cocker. Moi qui préfère encore avoir la marque du cocard, faut-il que je vole ma place ou que je la gagne comme un bon électeur? Joue le sauvageon sous les projecteurs. Je n'ai ni le cœur ni le temps pour des pourparlers. Si c'est ça être marginal ou un attardé, regardez, je l'écris en gros, en gras, en grand, sans avoir à faire semblant. Dans un monde blanc, bref, sans condition aucune, sans format ni code barre qu'on te colle au cul. Ou alors qu'on me tue pour vouloir vivre et mourir tel quel. Là où l'existence pue, je suis toujours avec elle. C'est apprendre à ne pas laisser, à écouter jusqu'en chier. C'est moi, lui, et nos trajectoires de chien loup. C'est apprendre à ne pas laisser,
à écouter jusqu'à en chier. C'est moi, lui, nous et nos trajectoires de chien loup.
De retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs, 19h-20h30 sur l'antenne de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Donc on vient de s'écouter une grosse partie de la conférence de presse qui a eu lieu le 8 février dernier à Gennevilliers dans le quartier du Lutte, organisé par le collectif Vérité et Justice pour Jamal. Juste pour dire, pour finir sur cette conférence de presse, savoir qu'il y avait un peu plus de 100 personnes dans la salle, donc c'était quand même assez bien de voir que pas mal de gens restaient mobilisés sur cette affaire. Bien sûr, sur ces 100 personnes, comme l'avait été appelé, c'était plutôt des gens qui étaient concernés par ces histoires directement, qui étaient présents, et pas, pour une conférence de presse, il n'y avait pas de journalistes, hein, donc visiblement, ces histoires, on veut les taire, et nous, on continuera d'essayer de donner un maximum d'infos là-dessus, de faire parler les gens en tout cas qui ont des choses à dire et pas les policiers qu'on entend souvent dans les médias. Et puis on vous rappelle aussi que si des gens nous écoutent même en prison, qu'ils ont des témoignages à livrer, vous pouvez vous servir aussi de notre boîte aux lettres, hein, postale à la radio pour les envoyer. C'est le 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, à l'émission Au fond près du radiateur, ou alors à l'émission Cité d'Or. Voilà, vous pouvez nous adresser vos courriers, vos témoignages sur cette affaire. Il n'y a aucun souci. Et puis on va profiter aussi du passage de deux camarades qui nous viennent donc de Mannheim et de Berlin, qui bossent beaucoup aussi sur les violences policières et qui essayent d'organiser un peu une solidarité internationale. Je sais pas si vous voulez vous présenter un peu et dire quelques mots là-dessus.
Salut Alain, de International Legal Team de Mannheim et de Berlin. Alors, merci qu'on peut parler. on voudrait organiser, comme tu viens de dire, au mois de mai, un congrès international contre la violence policière avec le motto qui s'appellera « Qui nous protège de la violence policière ?». Notre idée, c'est de faire 3 jours, un congrès où le premier jour, tous les gens qui viendront dans certains de plusieurs pays parleront des violences policières qui se passent chez eux. Le deuxième jour, de faire des workshops ateliers, de faire des ateliers où qu'on se regrouperont entre nous pour voir comment on peut mieux travailler ensemble, comment on peut faire cette solidarité internationale, comment on peut se défendre contre cette violence. Nous avons invité aussi des avocats qui sont, je trouve, importants d'essayer de trouver une discussion, une communication entre nous, les gens activistes ou bien les gens qui ont eu cette violence, qui subissent cette violence chaque jour avec les avocats. Et à la fin, en fin de compte, les résultats, et d'appeler une ville, disons Paris par exemple, qui dit « Ok, on organisera 6 mois après, tous les 6 mois, une deuxième conférence internationale contre la violence policière, et là pour faire autre chose. »
D'accord. Ouais. Et vous étiez particulièrement sur une affaire de violence policière en Allemagne. Est-ce que vous pouvez rapidement en parler aussi ?
Oui, je vais donner la parole à Gaston, parce que lui, il fait partie d'une initiative Ori Giallo, et puis il va vous en parler très court.
Merci beaucoup. Oui, je suis là, Gaston de Berlin. Je suis là pour représenter l'initiative Ori Giallo, qui est là depuis le 7 janvier 2005, au mémoire de Ori Giallo, qui est un demandeur d'asile qui avait été brûlé dans la cellule allemande de la ville de Dessau. Cette initiative avait débuté pour la question de savoir exactement ce qui s'est passé en cellule à Dessau. Ori Giallo était ressortissant de Guinée. Et la situation sur la mort d'Ori Giallo sont un peu celle de Jamal, où il a été tué dans les mains des forces de l'ordre ou dans le bâtiment des forces de l'ordre.
Ouais.
Ouais. Et le cas d'Ori Giallo s'est passé comme ça. Lui, il était enchaîné de 2 pieds et de 2 mains. Et il y a eu un incendie.
Sur un matelas inflammable.
Inflammable, oui. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais les faits sont ceci. Le corps a été retrouvé par les pompiers après un incendie, plus de 45 minutes. La police était bien au courant qu'il y avait quelqu'un en cellule, dont il était enchaîné de 2 pieds et de 2 mains. Et l'État a voulu expédier le corps juste après l'événement. Et l'initiative, à l'époque, avait intervenu après les obsèques et empêcher cette expulsion du corps de Rijalo. Et ils ont fait, avec l'aide de l'Université de Francfort, section médecine, là. Il y avait un professeur qui a assisté sur l'autopsie, qui avait dépisté que Rijalo avait, avant de mourir, un nez cassé, les côtes brisées. Bon, il y avait d'autres détails qui indiquaient qu'il y avait eu meurtre. Bon, à présent, ça fait presque 7 ans qu'il y a cette campagne au nom de Rijalo pour justice, vérité. Et bon, pour savoir exactement ce qui s'est passé. Bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, il y a plusieurs cas de brutalité policière en Allemagne. Ce qui est commun, c'est que souvent, c'est la plupart de cas, c'est brutalité. Si dans tous les cas, ces policiers ont eu l'impunité.
Ouais.
Et je pense qu'il ne faudra pas que ça se passe ainsi. Vous connaissez le cas de Stephen Lawrence en Angleterre. C'est à peu près 15 ans que la police a permis, était inculpé dans cette meurtre raciste, que la vérité a été sortie, Et je pense pas que, bon, je pense que ça sera un engagement très fort, très long. Et bon, si je suis là, c'est pour apporter du soutien international à l'égard de l'initiative Rijalo.
D'accord.
Je peux encore donner une petite info ?
Rapidement, vas-y.
Ouais, rapidement. Alors, une petite info, très vite, excusez. Le 13 mars, on appelle une journée internationale pour Rijalo, parce que c'est le dernier jour où il va y avoir le procès. Et on demande des soutiens, soit d'aller devant l'ambassade de France avec une banderole, etc., etc. Nous, nous sommes prêts aussi à soutenir aussi les gens qui ont besoin de nous. Le 23 mars, c'est la journée chez vous de l'action contre la violence policière. Et nous, on va l'appeler aussi la journée internationale, parce que je trouve que c'est très important, puisque c'est déjà chez vous. Alors, on va aussi l'appeler en Allemagne.
D'accord.
Très important. Il faut savoir que dans le cas Rijalo, le cas avait été fermé, scellé, et à travers des campagnes, ça a été réouvert.
D'accord, bah ouais, c'est souvent par l'action des gens qu'on arrive à ne pas enterrer ces dossiers que la plupart du temps la justice veut enterrer, veut museler. Et puis bah voilà, comme on vous l'a dit, nous on essaiera au maximum de relayer toutes ces informations. On vous rappelle aussi qu'il y a un rendez-vous à Grasse à la fin du mois en ce qui concerne le procès des flics qui ont tué Hakim Hajimi, dont on avait déjà beaucoup parlé dans cette émission. Et puis bah, on essaiera de vous redonner toutes ces informations-là sur notre site internet www.aufondpresduradiateur.fr et de suivre toutes ces histoires. On va tout de suite faire une pause musicale au fond près du radiateur et on revient juste après pour parler de ce qui se passe un peu en Grèce.
Criticism, I live with, but my business is handled. Crush statistics and demos, dismiss the gimmicks and scandals. Success is an effort measured in distance and angles. And digits and ran through while I move through the mountains. Thousands of cowards whose copycats are now on the top chart. More power to them, but now I devour your pop chart. Loose rules are true since they prove to be pessimists. Insight and time with complex perfection. Delicate delivery you'd expect from an expert. Styles make next jokes. Sex soap through your hometown. Subjects, predicates, adverbs, pronouns. Clones wanna clown, no, I ain't phony. Found me. When we make it to round three, well, God was disqualified. Set me archive, confirms I can handle any minor beauty, as I set an example. What I preach, gather
of my passion and peace. Deep, I delve into rap and tapping, I'll pattern the beat. Flying tax for filing taxes, saving stacks of receipts. Under the mattress of practice, in fact, sometimes I will cheat. Avoid the signs of a beast, fleeing the scene of a homicide. Cars collide swiftly, I avoid distractions. Like a daisy to owl, solving equations around us. Another state to be sour powder, I pour into visit. Powers diminish a minute after a crowd will gain interest. It's physics, I did. Critics can say what they will. No more interview chill. But did you check out the formula? My concepts ain't about street killing the coroner. Been there, done that. You could even rap that rap. I'd rather get facts and open up your thinking cap. So it doesn't matter what I like, because son, I know what I can do. And work twice as hard just to set an example.
De retour au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs de 19 à 20h30 sur l'antenne de FPP 106.3 FM. Et puis, bah, je vais, voilà, on est au milieu de l'émission, je vais vous redonner un peu les adresses utiles. Donc, il y a notre boîte mail qui sert à envoyer tout un tas de communiqués, d'infos, de contre-informations, d'appels, de critiques, de textes, de musique, de sons. C'est au fond près du radiateur en minuscule, tout en attaché, sans accent, @no-log.org. Et puis pour télécharger nos émissions, pour voir les différentes rubriques et écouter les sons qu'on passe dans ces émissions, c'est le www.aufondprèsduradiateur.fr. Et donc voilà, on va continuer cette émission sur la Grèce, voilà, sur ce qui se passe en Grèce, on va dire la Grèce s'enflamme contre l'austérité même. Puisqu'il ouais, s'est passé pas mal de choses depuis quelques semaines. Après, on va dire même ça fait longtemps qu'il se passe des choses en Grèce. On en avait déjà pas mal parlé. Et puis, bah, voilà, nous, on était en studio vendredi dernier avec une camarade pour parler de tout ça.
C'est ça. C'est-à-dire que bah, voilà, dernièrement, on avait entendu un petit peu parler donc, des dernières manifestations. Voilà, un peu dans la presse bourgeoise, on nous avait relayé voilà, une atmosphère de chaos qu'on a l'habitude qu'on nous relaie dans ces moments-là. Nous, on a eu la chance de pouvoir rentrer en contact avec voilà, quelqu'un qui est là-bas, donc qui nous a raconté un petit peu. Une fois de plus, bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On peut vous dire que tout ça explique bien un petit peu de quelle manière, en réalité, les plans d'austérité, c'est tout un tas de choses, mais ce n'est pas particulièrement des décisions courageuses comme on nous le vend dernièrement. Et que, par contre, ça semble véritablement être une bonne raison de se soulever. Voilà, donc je crois qu'on va écouter ça et puis... On reviendra tout de suite après au fond près du radiateur.
Donc salut.
Salut.
Est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de l'historique des plans d'austérité ? On sait que là c'est le troisième volet. Il y en a déjà eu deux avant, il y a déjà eu des grosses luttes autour de ça. Tu peux un peu nous en parler ?
Oui, alors c'est vrai qu'en gros, les plans d'austérité ont commencé à partir du moment où la Grèce elle a été mise sous tutelle du FMI. Et donc ça, je rappelle que ça a été voté le 5 mai 2010 en Grèce par l'Assemblée. Et donc, en fait, depuis cette date-là, il y a eu trois plans d'austérité. Depuis, il y a énormément de luttes qui se sont développées avec des pics de... Voilà, de manifestations, de grèves générales, tout un tas de luttes en fait qui n'ont pas arrêté depuis cette date-là, quoi. Donc, ce sera un peu difficile d'établir tout l'historique, mais disons que là, c'est le troisième plan et bon, on va moi, je voudrais surtout parler de ce qui s'est passé cette dernière semaine. Mais faut pas oublier ça, que ça fait maintenant plus de 2 ans que tout ce truc-là est en marche, quoi.
Tu peux nous rappeler un peu le contenu de ce troisième plan d'austérité ?
C'était les mesures qui étaient soumises au vote ce dimanche 12 février. Alors, il faut savoir que ce plan, il prévoyait une baisse des salaires de 10 à 20% selon les secteurs. En fait, c'est la deuxième baisse en l'espace de 2 ans des salaires. Elle prévoyait aussi une baisse du salaire minimum de 22%. Et pour les moins de 25 ans, il y a une baisse supplémentaire de 10%, donc de 32% pour les moins de 25 ans. Ce qui fait que le salaire minimum, il est abaissé à 490 euros par mois et à 420 euros par mois pour les moins de 25 ans. Et ça, c'est une baisse donc, qui a été instaurée par la loi, qui n'a même pas été négociée entre syndicats et patronat dans le secteur privé. Donc, c'est assez important de le souligner. Ensuite, les nouvelles mesures d'austérité, elles prévoient la suppression de 150 000 postes de fonctionnaires d'ici 2015. Donc autant dire que c'est la quasi-totalité. Et quatrième grosse mesure qui a été adoptée dans le cadre de ce plan, c'était que toutes les recettes de l'État, elles vont directement au remboursement de la dette. Et donc ça veut dire que la priorité va au remboursement de la dette. Et après, l'argent qui reste va aux salaires, aux écoles, aux hôpitaux, aux retraites, tout ça. Ça, on le sait déjà depuis plusieurs mois. Les salaires, ils ont été énormément retardés. Il y a plusieurs fonctionnaires qui n'ont pas été payés depuis plusieurs mois. Les écoles et les hôpitaux, ils sont, bon, à l'heure actuelle, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas de chauffage, par exemple, en plein hiver. Pareil, les retraites, elles sont retardées de 6 mois, de 8 mois. Donc voilà, ça c'est les mesures phares du plan d'austérité. En gros, avec ces mesures d'austérité, on estime que le niveau de vie en Grèce, il a baissé de 40% en l'espace de 2 ans. Un des résultats très, très visibles, c'est que le taux de suicide en Grèce, alors qu'il était parmi les plus bas en Europe jusqu'à récemment, il est en train d'exploser et il a augmenté de 40%. Et voilà, la première cause de ces suicides, c'est l'endettement. Donc ça illustre bien la situation ici, je pense.
On peut peut-être justement voir un peu c'est quoi les réactions, notamment sur ce plan d'austérité, depuis la grève générale, en passant par la journée de dimanche.
Donc, il faut savoir que la journée de dimanche, bon, ça a été c'était la plus importante, mais à l'annonce du vote de ce nouveau plan d'austérité, qui a été annoncé en début de semaine dernière, le lundi 6, dès le lundi, les organisations syndicales elles avaient appelé à une grève générale pour le mardi de 24 heures. Qui n'a pas été très suivi. Premièrement, elle a été appelée vraiment au dernier moment. Puis dans la foulée, en fait, les organisations syndicales ont aussi appelé à une grève générale de 48 heures vendredi et samedi, donc les 10 et 11 février. Ça laisse penser que les organisations syndicales n'avaient pas du tout l'intention d'appeler à une grève générale illimitée et reconductible. Donc, elles avaient une stratégie qui se limitait à quelques journées de grève générale appelées dans l'urgence. Voilà. Et le résultat, évidemment, ça a été que très peu de monde a suivi la grève. Parce que, bon, il y a beaucoup de Grecs qui sont déjà très limités au niveau du salaire, avec toutes les baisses qu'ils ont subies. Donc, par rapport à ce qui s'annonçait, il y avait quand même assez peu de monde dans la rue, entre 5 000 et 10 000 personnes environ, selon les journées.
À l'inverse du dimanche, où là, il y a eu un appel à rassemblement et. Déjà, voilà. Première question, l'appel à rassemblement, lui, d'où venait-il ?
Disons que, en fait, le dimanche, c'était la journée du vote des mesures à l'Assemblée. Donc, c'était assez logique que le jour du vote, je ne pense pas qu'il y ait eu une source précise de l'appel, mais bon, on sait très bien que ça a très vite circulé au niveau des réseaux, que ce soit Facebook, parce que bon, ça aussi, ça joue un rôle, mais même au niveau d'Indie Media, tout le monde savait que c'était la journée du vote, donc. C'était une évidence que tout le monde allait descendre le dimanche dans la rue, quoi. Puis c'était un dimanche, en plus, donc les gens ne travaillaient pas. Enfin, comme il y avait très peu de monde les jours des grèves générales, on sentait dès samedi après-midi que ça commençait. Il commençait à y avoir une espèce d'ébullition. D'ailleurs, ça s'est démontré aussi par le fait que Il y a eu plusieurs occupations, que ce soit à Athènes ou dans des grandes villes de Grèce, ou même dans des îles, il y a eu des occupations de mairies, de bâtiments publics, et aussi des bureaux du PASOK et de la Nouvelle Démocratie, qui sont les, en gros le Parti Socialiste grec et la droite conservatrice grecque, qui avaient été saccagés aussi samedi et dimanche en début de journée. Donc la mobilisation elle s'annonçait assez forte. Et effectivement, l'appel avait été lancé pour 5 heures de l'après-midi. Et dès 3 heures, 4 heures, on voyait déjà que le monde commençait à affluer vers la place de Syntagma, qui est la place qui est devant l'Assemblée, en fait. Donc là, c'est assez difficile de faire des estimations. Tous ceux qui étaient dans la rue ont bien senti que c'était une des plus grosses manifestations qu'ait connue la Grèce. Faut savoir que tout le centre, en gros sur 2-3 kilomètres, il était rempli, enfin c'était impossible de circuler. La plupart des gens n'ont même pas pu accéder à la place en fait de Syntagma tellement il y avait du monde. Donc les estimations de la police, elles sont limitées à 80 000 personnes, ce qui semble assez ridicule. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que même les médias étrangers ne semblaient pas avoir soulevé le fait qu'il y ait eu autant de monde, quoi. Tout de suite, ce qui a été relayé, c'est le fait qu'il y ait eu des épisodes, des émeutes, voilà, tout ça, ça s'est limité à ça, en fait. Et personne n'a parlé du fait que c'était sans doute une des plus grosses manifestations que la Grèce ait connue depuis peut-être la chute de la dictature. Ce qui est sûr, c'est que la dernière très grosse manif analogue qui avait eu lieu, c'était le 5 mai 2010, justement, le jour où la Grèce avait été mise sous tutelle du FMI et où il y avait eu 3 morts dans une banque suite à un incendie. Bon, voilà, et qui avait un peu, à l'époque, il y avait beaucoup de ceux qui avaient participé à cette manifestation avaient souligné le fait que s'il n'y avait pas eu cet événement-là, peut-être ce jour-là, il y aurait eu une véritable insurrection et que les gens étaient prêts à rentrer dans l'Assemblée, quoi. Donc il y a beaucoup de personnes dimanche qui ont assimilé cette journée où il y avait énormément de monde dans la rue au 5 mai 2010 et même peut-être plus parce qu'on sait que même en province, à Thessalonique c'est pareil, ils parlent de 100 000 personnes, ce qui est énorme. Et il y a eu énormément de mobilisation aussi dans toutes les petites villes de Grèce. Donc voilà, et contrairement à d'autres manifestations, moi ce qui m'a frappé, c'est que les gens étaient vraiment d'humeur à se confronter à la police et ils voulaient rentrer dans l'Assemblée, quoi. C'était le but affiché. Alors que les précédentes mobilisations étaient très ternes. Il y avait une espèce de retenue. On sentait que les gens, ils étaient assez résignés, en fait. On a tout de suite senti que il y avait les gens n'avaient pas l'intention de rester dans la rue toute la nuit, quoi.
L'idée de se rendre devant le Parlement, c'était éventuellement pour faire pression sur les députés qui allaient voter ce plan. Est-ce que ça a eu une influence à l'intérieur et comment ça s'est passé ensuite à partir de 17h à l'extérieur et dans Athènes après plus généralement, quoi?
À l'intérieur, en fait, ils ont beaucoup tardé à voter. Enfin, le vote a vraiment eu lieu entre minuit et demi et 1h du matin. Donc, faut savoir que en gros, toute la manif toutes les émeutes qui ont eu lieu, elles ont eu lieu de 17h en gros à 1h, 1h30 du matin, quoi. Et donc là, c'est un peu difficile de faire le lien entre ce qui se passait dedans et dehors. Très vite, en fait, comme il y avait un monde incroyable. Dès 17h, en fait, dès le début du rassemblement, la police a commencé à lancer des gaz lacrymogènes et des grenades explosives. Enfin bref, pour repousser en fait la foule qui affluait vers Syntagma. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils ont essayé de nettoyer la place et toutes les rues qui étaient autour de Syntagma pendant 5 heures étaient, les gens restaient à proximité sans être devant l'Assemblée, ils restaient à proximité et dans toutes les rues avoisinantes, il y avait des affrontements avec la police, il y a eu des émeutes, il y a eu des destructions de bâtiments, des incendies, enfin voilà, où partout il y avait du monde, et il y en avait partout en gros autour de l'Assemblée, il se passait des choses, quoi. Et ça, c'est important aussi, parce qu'on parle toujours d'Athènes, on ne parle pas assez de la province. C'est très caractéristique aussi. Il s'est passé beaucoup de choses aussi en province. Il y a eu beaucoup d'affrontements en province entre manifestants et policiers, etc. Donc, il faut savoir qu'il y a énormément de bâtiments qui ont été attaqués, détruits, partiellement ou entièrement brûlés. Donc ça, c'est officiellement... Bon, après, c'est très difficile de donner des chiffres, mais je donne les chiffres officiels qui sont quand même assez visibles, parce que quand un bâtiment il brûle entièrement, on ne peut pas vraiment le cacher. Il y a eu 45 bâtiments incendiés partiellement ou entièrement à Athènes, dont 30 banques. Le reste, c'était principalement des grandes enseignes, du type... des grandes chaînes de magasins de fringues, des trucs comme ça. Et aussi, ça c'est des magasins qui fleurissent, qui ont énormément fleuri à Athènes ces dernières années, enfin ces derniers mois surtout. C'est, je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'est les magasins en fait qui achètent l'or ou tout ce qui a de la valeur en fait.
Des prêteurs sur gage.
Voilà, les prêteurs sur gage contre de l'argent en fait. Donc ça c'était également une des cibles. Il faut noter aussi, il y a eu beaucoup de pillages de magasins. Officiellement, ils parlent de 71 magasins pillés. Et là, encore une fois, c'est surtout des grandes enseignes qui ont été la cible, des magasins de fringues, téléphonie mobile aussi, beaucoup. Voilà. Ce qui a été relayé beaucoup aussi à l'étranger et ici dans les médias, c'était les cinémas. Alors, faut savoir que... Bon, en gros, il y a deux cinémas en question, dont un qui est un bâtiment historique du 19e siècle. Il faut savoir que ces deux cinémas, ils n'étaient pas la cible des incendies. Il se trouve qu'ils étaient à côté de magasins. L'un était à côté d'un Starbucks qui a été complètement pillé et incendié. Et il reste quasiment rien. Et donc, l'incendie s'est propagé. Et ce qui fait que la devanture d'un des cinémas, a été détruite. Et l'autre, c'est pareil, il y avait un autre magasin à proximité qui était une grande marque, et donc qui était la cible, et c'est l'incendie qui s'est propagé au deuxième cinéma. Mais bon, c'était en aucun cas la cible des attaques.
Non, mais c'est intéressant ce que tu nous dis, parce que ce qui est relayé par la presse étrangère tout le temps, c'est un peu nous donner l'image d'une atmosphère de chaos où la destruction semble pas du tout ciblée, où ça va dans tous les sens.
La destruction, elle est aveugle, comme la violence, elle est aveugle, et que
voilà,
c'est pas ça. Du tout ça. Enfin, oui, en tout cas, pour tout ce qui est incendie, c'est les cibles, pour le coup, elles étaient vraiment choisies, quoi. On peut pas dire que il y a eu très peu de petits magasins, de petits propriétaires qui se sont fait attaquer. C'est là sur les 45 bâtiments incendiés, il y en a 30 qui sont des banques, donc c'est assez représentatif.
Juste si je peux te demander aussi une précision. On voulait savoir en gros si cette violence qu'il y a dans les manifs, elle est plutôt partagée par l'ensemble des manifestants, ou si c'est, comme on le dit souvent, des petits groupes extrêmement isolés qui n'ont rien à voir avec les manifestants pacifiques.
Alors ça c'est pareil, oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, les médias et le pouvoir, ils ont toujours été du même côté, de toujours souligner que les violences sont en marge de manifestations, alors que c'est absolument pas le cas. Sans vouloir dire que la plupart des gens qui brûlaient les banques n'avaient rien à voir, parce que c'est pas vrai, n'avaient rien à voir avec les milieux anarchistes. Moi, j'ai souvent assisté à des scènes ce jour-là où il y avait 15 personnes qui cassaient et qui brûlaient, et derrière, il y avait 150 personnes qui disaient « Allez-y, brûlez la banque !» enfin, qui applaudissaient au moment où la banque prenait feu, quoi. Donc c'est vrai que là, il y a une distinction qui est toujours faite. Et même le Parti communiste, par exemple, le lundi matin, le lendemain de la manifestation, a dénoncé une fois de plus le plan de la police, le complot avec les provocateurs qui sont les
encagoulés
que tout le monde connaît. Et donc derrière chaque cagoule, un flic, enfin le discours... qu'on a l'habitude d'entendre un peu partout, je pense, et qui est absolument faux, quoi.
Voilà, donc les violences ne sont pas en marge des manifestations.
Absolument pas.
Des manifestants.
Il y a des manifestants. Ces manifestants, ils sont de tous âges. Il y a de tout, quoi. Il y a même des militants d'extrême droite qui cassent des banques aujourd'hui, quoi. C'est absolument pas un plan, un complot de la police ou je ne sais quoi. C'est juste la masse qui s'exprime et qui choisit de casser ou de brûler. Ça représente, il y a un éventail très large de personnes qui participent à ça, quoi. Oui, alors faut savoir que dimanche il y a eu, donc ça c'est les chiffres officiels, 92 interpellations. Donc il y a eu 79 arrestations. Sur les 79 arrestations, il y en a 23 qui sont un groupe d'anarchistes qui a tenté d'occuper la mairie d'Athènes pendant la soirée, en fait. Donc ils ont été, les 23 ont été arrêtés par la police. Faut savoir que parmi ces arrestations, elles sont pour l'essentiel arbitraires, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de flagrant délit. C'est pas une personne qui a jeté un cocktail Molotov et qui, sur le coup, a été attrapée par la police. C'est toute la soirée des patrouilles de police, surtout les patrouilles Delta, qui sont à moto et qui font des rondes dans la ville, qui arbitrairement disent « bon ben, on va te fouiller, t'as un masque sur toi, à 20 mètres, il y a une banque qui a été brûlée il y a une heure, on t'arrête quoi ». Voilà, parmi ces 79 arrêtés, il y en a 55 qui sont grecs et 26 qui sont d'origine immigrée. Assez intéressant de souligner, c'est qu'il y a de tous les âges, même si la plupart sont des jeunes, on retrouve de tous les âges dans ces 79 arrêtés. 41 d'entre eux ont entre 19 et 29 ans, mais il y en a 3 qui ont entre 14 et 17 ans, 27 qui ont entre 31 et 39 ans, et 8 qui ont plus de 40 ans. Ça, c'est une des premières caractéristiques. La deuxième, justement, parce qu'on parlait avant de qui sont les personnes qui cassent, qui incendient, qui participent aux émeutes. Là, justement, il y a les professions de ceux qui ont été arrêtés publiées. La plupart d'entre eux sont des chômeurs, des étudiants. Mais on remarque quand même, parmi tout cela, il y a un avocat, il y a un scénariste. Il y a vraiment toutes les catégories qui sont représentées là encore. La surprise, ah oui, parmi les interpellations, il y a un agent de la police municipale qui a été attrapé donc. Donc faut savoir que c'est assez important de le dire. Parmi ceux qui ont été arrêtés, il y en a 4 qui ont été envoyés en prison tout de suite, qui n'ont pas eu de procès donc. En Grèce, c'est assez grave parce que ça veut dire que pendant 18 mois, ces personnes-là elles peuvent rester en prison sans avoir de procès. C'est la période dans laquelle, si le juge décide qu'ils sont dangereux pour les laisser à l'air libre, ils les mettent en prison d'office. Toujours pour les chiffres officiels, il y aurait 109 blessés parmi les policiers. Ça, c'est sans doute des chiffres qui sont un peu gonflés, mais je veux bien croire qu'il y a eu pas mal de flics blessés parce que ils ont mangé pas mal de pierres et de projectiles en tout genre d'une manière générale. Parmi les manifestants, c'est un peu difficile de dire, il n'y a pas de chiffres officiels. Dans les hôpitaux, on parle de au moins 80 personnes qui sont venues pendant ou après la manifestation. Il y a énormément de personnes qui sont pris des coups, qui n'ont pas été à l'hôpital, quoi. Donc c'est un peu difficile de parler, de donner des chiffres là encore.
Du coup, alors par rapport à cette journée, à la répression, aux blessés, tout ça, comment est-ce qu'il y a une solidarité qui s'organise tout de suite? Comment ça se passe même au niveau de la répression?
Là, c'est en train de se mettre en place. En fait, dès mardi, ceux qui avaient été arrêtés pendant la manifestation, dès mardi, ils passaient devant le juge. La plupart ont été relâchés et ne seront jugés que dans quelques semaines. Donc pour l'instant, c'est pas encore ce qui se passera pour eux. Mais ce qu'on sait, c'est que ceux qui ont été attrapés, comme il y a eu énormément de dégâts qui ont été faits dans Athènes, on sait que ceux qui ont été arrêtés vont prendre pour les autres, quoi. Pour ceux qui ont échappé aux flics. C'est la première fois aussi, par exemple, les quatre qui ont été tout de suite emprisonnés, leur photo a été publiée. Donc ça, c'est la première fois qu'ils ont même pas été jugés encore, et ça, c'est interdit normalement. Ils ont été présentés comme des anarchistes, très dangereux. Donc ça, c'est quelque chose qui avait jamais eu lieu auparavant.
Mais du coup, la police, par ce jeu-là, elle tente quand même de faire un peu appel aux citoyens qui pourraient éventuellement balancer, quoi.
Ah oui, bien sûr.
Qui pourraient donner des informations. Bien sûr, de toute façon.
Enfin, dès lundi, en fait, la plupart des discours convergeaient vers ça. C'est-à-dire que, alors qu'il y avait une des plus grosses manifestations qu'il y ait jamais eu, des incendies, des attaques de cibles très caractéristiques comme des banques, etc., ce qui a tout de suite été mis en avant, que ce soit par les médias ou le pouvoir, c'était le petit vendeur qui s'est fait détruire son magasin, qui est maintenant au chômage, et comment on va pouvoir, grâce aux caméras de surveillance, retrouver ceux qui ont fait ça. Et bon, voilà, il y a tout de suite ce discours répressif qui s'est mis en place, quoi.
Alors justement, est-ce qu'on peut maintenant aussi un peu plus développer ce qui se passe aussi en dehors de ces grosses manifestations? On a même entendu qu'il y avait éventuellement un hôpital qui avait été réquisitionné. Est-ce que tu peux nous donner plus d'infos sur...
Oui, il y a un hôpital qui est autogéré depuis peu, dans le nord de la Grèce. Dans le nord de la Grèce, je ne sais plus comment la ville s'appelle, par contre. Bon, en fait, ce n'est pas très difficile d'autogérer à partir du moment où il n'y a pas un seul euro qui rentre dans l'hôpital. Ça fait longtemps de toute façon que ça se passe un peu partout. C'est-à-dire que les médecins, non seulement ne se font pas payer, mais en plus ne sont pas en mesure de demander à tous les patients de payer. Donc il y a une autogestion qui s'organise de fait dans la plupart des hôpitaux. Après, les assemblées de quartier, elles jouent un rôle assez important, surtout depuis qu'est né le mouvement... Venpliron, qui en fait le mouvement s'appelle Je ne paie pas, et qui consiste à refuser de payer que ce soit les nouvelles taxes sur la propriété ou la dernière facture d'électricité, parce que le prix de l'électricité, que ce soit d'électricité ou du chauffage, a augmenté de 50% en quelques mois. Ou que ce soit par exemple les péages. Ça fait très longtemps que beaucoup de Grecs refusent de payer les péages, parce que les péages sur les autoroutes ont même été officiellement déclarés comme illégaux, en fait.
Ouais, en gros, c'est des gestionnaires privés qui gèrent les autoroutes et qui imposent leurs tarifs.
Voilà, c'est des gestionnaires privés qui gèrent les autoroutes, mais ils étaient censés faire payer pour financer les travaux qui étaient faits sur la route. Et en fait, les travaux ça fait 10 ans qu'il y a des travaux qui, pour la plupart, n'ont même pas été faits, et en fait c'est juste des entreprises qui font du profit sur le dos des gens. Donc le mouvement, en fait, Je ne paie pas, est né de ça, surtout sur la question des péages. Et maintenant, là, il s'est élargi à plein de domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des assemblées de quartier, tu as tout un tas de personnes qui se rassemblent et qui disent, bon ben nous aujourd'hui on va pas payer la nouvelle taxe de propriété qui a été instaurée, et qui nous dit maintenant ben faut payer 500 euros au 1er janvier 2012. Et si tu ne payes pas 500 euros au 1er janvier 2012, eh ben, tu n'auras plus d'électricité chez toi, quoi. Voilà, ça, c'est des mouvements qui se développent beaucoup. Moi, ce que j'ai pu... ce qui m'a un peu marqué, enfin, quelques idées un peu qui me sont venues après dimanche... C'était ce qui m'a surpris, c'était le fait, premièrement, que les grèves générales étaient très peu suivies. Et donc ça veut dire que les syndicats, que ce soit les syndicats, les partis politiques ou tous ceux qui prétendent aujourd'hui, qui appellent à l'unité nationale et qui volontairement appellent à un réflexe patriotique pour sortir la Grèce de ce marasme, en fait, ils ont été complètement exclus, en fait, de la lutte. Ce qu'on peut remarquer, c'est un phénomène... qui s'apparente plutôt à ce qu'on a vu l'année dernière avec les rassemblements sur les places, des assemblées de quartier, avec donc un côté qui est beaucoup plus auto-organisé et qui n'a aucunement envie de voir apparaître sous toute forme de pouvoir institutionnel, en fait. C'est assez important de le souligner. Ensuite, il y a énormément d'immigrés qui ont participé aux dernières mobilisations, que ce soit dimanche ou même les journées d'avant et les diverses grèves générales qu'il y a eu. Et voilà, une troisième chose qui était assez marquante, c'est que alors que la moitié du centre d'Athènes elle a brûlé pendant la nuit de dimanche, le lundi matin, tout était à peu près normal, quoi. C'est-à-dire que bon, on voyait les pompiers qui éteignaient encore les dernières traces de la nuit enflammée, mais il y a eu une volonté de tout nettoyer, quoi. De faire comme si rien ne s'était passé. Toutes les équipes municipales de nettoyage, etc., elles étaient au pied levé toute la nuit pour ramasser les tonnes de bouts de marbre qui parsemaient toutes les rues d'Athènes, quoi. Du coup, je pense qu'il y a un sentiment, tout le monde a vraiment eu un sentiment que, enfin, après tant de temps où les choses étaient un peu ternes et où on sentait qu'il n'y avait pas vraiment la volonté d'en découdre dimanche, il y a vraiment quelque chose de fort qui s'est passé. Il y a quand même la question qui se pose, quoi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, en gros, il y a une pauvreté qui est en train de s'installer depuis maintenant quelques mois et qui s'annonce de plus en plus grande. Et voilà, là, aujourd'hui, clairement, on va avoir soit une immigration de masse, enfin, sûrement une immigration de masse vers les autres pays européens ou même vers l'Australie, les États-Unis. C'est déjà en train de se passer, il y a énormément de gens qui partent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura sûrement d'autres soulèvements parce que la situation ici, elle est très peu vivable, en fait, quoi. Elle est de moins en moins vivable.
On est de retour dans l'émission Au fond près du radiateur sur FPP 106.3 FM. Et donc, on vient d'écouter une camarade franco-grecque qui nous vient d'Athènes et qui habite là-bas depuis 2 ans et donc qui a témoigné un peu sur la situation des derniers jours. Juste un petit mot pour dire aux auditeurs de la bande FM de nous excuser puisqu'on vient d'apprendre qu'on est de retour en direct, en fait. On n'a pas été en direct sur la bande FM, sur les ondes comme il se doit à partir de 19h. Il y a eu un petit problème technique. Donc on vous annonce d'ores et déjà qu'on sera rediffusé spécialement ce vendredi à 16h30, de 16h30 à 18h, il y aura notre émission sur FPP. Et puis la rediffusion qui est moins spéciale, qui est habituelle, c'est le vendredi matin de 7h à 8h30. Et voilà, un petit mot quand même pour finir sur la Grèce.
Ouais, voilà, juste quand même juste 2 minutes sur un petit peu quand même le traitement médiatique auquel on a le droit en général de la Grèce. Et donc, de fait, l'importance quand même d'essayer de s'informer véritablement, et ce par des témoignages, et on essaiera de continuer à le faire d'ailleurs dans cette émission, c'est que quand même dernièrement on est assez bombardé, de tous les côtés par les médias. On nous parle la nouvelle drogue qui sévit chez les pauvres en Grèce. On agite un peu les fantasmes afin d'utiliser un petit peu la peur. Et ça, on le voit beaucoup même dans les discours politiques et ceux qui sont vachement diffusés en ce moment. Et on voit de quelle manière un petit peu le pouvoir construit lui-même des situations de misère complète avec la mise sous tutelle, donc qui est entérinée aujourd'hui de la Grèce avec l'Union européenne et des beaux accords internationaux politiques qu'elle utilise au niveau national tout de même pour justifier d'ailleurs ses propres réformes et en autant de campagnes législatives les futures aussi de présidentielles, les futures aussi. Donc on nous explique que c'était important de faire les retraites parce que sinon si on n'avait pas changé les retraites, comment est-ce qu'on pourrait faire, on pourrait devenir comme la Grèce, etc. Donc un petit peu envie de dire que apparemment vous avez entendu un autre son de cloche et on essaiera de diffuser ça quand même un maximum au fur et à mesure des mois et de suivre toutes ces affaires. Donc avant la fin de cette émission, une petite pause musicale et on reviendra tout à l'heure pour discuter un peu d'un petit texte qui nous vient d'Auckland.
Ah. On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums. Je veux du rhum, pas des chrysanthèmes. Au générique de fin de cette mise en scène, je maudis le monde sans attendre qu'on m'aime. Vais où mes propres mélodies m'emmènent. Et je vis sans gêne et j'écris sans chaîne. Mon mépris a pris, je le crie quand même. D'où mes rimes proviennent, sache que nos peines, même les plus anciennes, font des prisons pleines.
Parfois c'est vital, on peut pas toujours éviter de confronter ses opinions et ses idées. Même si ça blesse au fond, il y a encore plus profond, encore des sous-sols quand on pense toucher le fond. Des tas de choses auxquelles on n'a pas encore songé. Laissé pour mort, il finira par se venger. Y a pas de notice, des gens prêts et d'autres factices. Un jour il réclame son dû, c'est avec le diable du pactise. On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
Souvent je me dis que j'ai trop de haine pour un seul scar. Là je suis montré du doigt quand je me balade par-ci par-là. Des regards me soupçonnent, pourtant je connais personne. Qu'on me foute la paix, c'est en particulier ce que j'affectionne. Je prends le train en marche, là c'est d'attendre à quai. Qu'on veuille bien m'utiliser comme un laquais. Qu'on pense enfin à m'intégrer dans le système, je sais. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Et malgré les sales plans, je recherche les talbins. Je remplis les calvins et je fuis les parfums. Et puis je tiens tout le temps des propos insultants, expliquant comment je l'ai et à quel point. J'en ai connu tellement, des moments déroutants, que je vis dans l'instant, que plus rien ne m'atteint. Si personne ne m'entend, je ne vais pas pour autant aller le dos voûté à la base des pantins.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
On prend le train en marche, les choses comme elles viennent. Trop de parasites pour se laisser charmer par le chant des sirènes.
On avance mais ne suit personne, les mêmes sur les paliers, les podiums.
On tente notre chance et on joue carte sur table. Pendant que tout s'écroule, on cherche encore le Graal. En maudissant la guigne, quand le doute nous gagne, je pense que la musique rend malade autant qu'elle nous soigne.
Les choses, je les prends comme elles viennent. Vu que la crise et les coups et les cours d'assises ont attisé les flammes sur beaucoup, nous ont brisé le cou, dis-moi combien tiennent.
De retour dans l'émission Au fond près du radiateur, comme tous les mardis soirs 19h sur 106.3 FM. On vient d'écouter donc Les choses comme elles viennent sur le dernier album de Morad. C'était avec Kazé aussi au micro, comme vous l'avez reconnu. Et puis bah c'est pas encore sorti, ça sera en indé le 27 février, voilà, pour écouter la suite du petit album de Morad qui va sortir. Et tout de suite on enchaîne sur ce qu'on vous avait promis en début d'émission, un texte qui est paru donc sur les différents réseaux Indie Media, qui est un appel de Occupy Auckland. Occupy Auckland, c'est un mouvement dont on vous avait déjà parlé. On va essayer d'oublier le terme Occupy, qui a été largement repris par les médias bourgeois et souvent qui dénature complètement la lutte même qui se passe souvent localement face à une réalité bien concrète. Et on va s'intéresser à l'appel, en tout cas, qui a émergé de cette assemblée. Et on vous avait déjà parlé un peu de ce qui se passait quand même à Auckland et que justement, cette lutte des Occupy là-bas était quand même assez... assez dur et concerné vraiment pas mal de personnes dans cette ville. On rappelle où a débuté le mouvement des Black Panthers, donc encore symboliquement, ça veut sûrement dire quelque chose. Voilà, c'est un appel à la grève générale internationale, donc pour le 1er mai 2012, qui a été lancé par cette assemblée populaire, donc Occupy Auckland, et on espère qu'il sera repris le plus largement possible. En tout cas, on vous en lit les grandes lignes, parce que quand ça nous vient des États-Unis, voilà,
C'est, on peut pas, on peut pas quand même faire un pass, on peut pas quand même.
Voilà, on peut pas. C'est sûr que ça prend une autre dimension quand c'est le grand continent américain qui se met à développer des idées comme celle-ci. On les relaye parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude que ça sorte de là-bas. Donc je cite ce texte. La grève générale est de retour, remodelée pour cette époque faite de coupes budgétaires importantes, d'un violent racisme anti-immigré et d'une spéculation financière prédatrice et généralisée. En 2011, le nombre de travailleurs syndiqués aux États-Unis était de 11,8%, soit près de 14,8 millions de personnes. Ce dont ces chiffres ne parlent pas, c'est le nombre croissant de chômeurs et de précaires dans ce pays. Les chiffres ne parlent pas des travailleurs manuels, des travailleurs non déclarés, des travailleurs domestiques qui viennent la plupart du temps des communautés immigrées. Les chiffres ne parlent pas de ceux qui travaillent à domicile et de toute l'économie invisible du travail reproductif non rémunéré. Les chiffres ne parlent pas des étudiants qui ont contracté des milliards de dollars de dettes et qui souvent multiplient les petits boulots pour pouvoir payer des frais de scolarité qui montent en flèche. Les chiffres ne parlent pas du pourcentage énorme des Noirs américains qui sont en prison ou exclus de la stabilité et de la sécurité de l'emploi à cause du racisme de notre société. En décembre 2011, le taux de chômage officiel à Oakland atteignait le pourcentage catastrophique de 14,1%. Alors que les villes comme Oakland tombent en ruine à cause de l'austérité, ce qu'il reste d'argent public est destiné à la corruption et à la militarisation des forces de police afin de contenir le désordre social. Le 2 novembre de l'année dernière, Occupy Oakland a organisé la première grève générale aux États-Unis depuis la grève générale d'Oakland de 1946, qui avait fermé le centre-ville et bloqué le port. Nous devons réimaginer une grève générale dans une époque où la plupart des travailleurs ne sont plus syndiqués et où la plupart d'entre nous se battent pour le privilège de travailler plutôt que pour des améliorations marginales des conditions de travail. Nous devons porter le conflit dans la rue, dans les écoles et dans les bureaux des administrations locales corrompues. Réimaginer une grève générale signifie trouver dès maintenant des solutions pour les communautés touchées par les coupes budgétaires et par le harcèlement constant de la police, indépendamment d'un éventuel changement de municipalité. Occupy Oakland appelle et participera à une nouvelle orientation du mouvement des Occupy, basée sur la certitude que nous ne devons pas seulement trouver des nouvelles façons de subvenir à nos besoins indépendamment de l'État, nous devons aussi attaquer les institutions qui nous acculent à une vie de misère faite d'exploitation, d'endettement et d'une pauvreté toujours croissante. Si on ne veut pas vivre, on ne travaillera pas. Le 1er mai 2012, Occupy Oakland se joindra aux gens de tout horizon, partout à travers le monde, dans une grève générale mondiale visant à interrompre la circulation du capital qui chaque jour sert à enrichir les classes dirigeantes et appauvrir le reste d'entre nous. Il n'y aura pas de victoire autre que celle que nous remporterons nous-mêmes en nous réappropriant les moyens d'existence dont nous avons été et dont nous continuons à être dépossédés jour après jour. Grève, blocage, occupation, signé Occupy Oakland. Voilà, c'était donc une grosse partie de cet appel donc, qui émerge de l'Assemblée de Occupy Oakland. Voilà, c'était un petit mot quand même pour dire que cette initiative internationale paraît quand même lancée comme ça à tout bout de champ, mais c'est, voilà, s'il existe des petits médias...
Un certain enthousiasme,
comme les nôtres, pour les relayer, c'est encore mieux. Voilà, ça peut tomber dans certaines oreilles. Ouais. Et puis justement, il y avait une autre initiative le 17 mars aussi.
Le 17 mars à Francfort, il y a une manif, une grande manif internationale contre la crise économique, qui va y avoir aussi des occupations, etc. C'est pour ça qu'on appelle. Bon, ce que je trouve bien aussi, ce qu'ils appellent ici à Auckland, c'est pas mal non plus, mais je veux dire aussi chez nous en Europe, on le connaît et il faudrait qu'on le développe. Et je trouve que c'est très important ça. Et on voit très bien que dans tous les pays, même du monde, même pas européens et américains, cette violence policière, elle devient de plus en plus horrible et que la police a le droit de tout faire. Et que c'est dommage que les citoyens et les citoyennes de tous les pays, même ici à Paris, quand on parle de Paris, qui est encore, comme on dit en français, qu'ils écoutent encore la police et qu'ils en croient encore. Tu comprends? Ouais. Et ça, il faudrait arrêter ça. Ce que je trouve qui est bien, c'est, je vous remercie qu'on est arrivé à prendre contact entre nous et qu'on va essayer, et qu'il faut aussi essayer qu'on nous repassons à la base, parce que nous sommes des groupes de base, et de rediffuser avec ces radios comme vous avez ici, que nous aussi à Mannheim, de rediffuser ensemble les vraies informations. Parce que vous avez dit, je trouve ça super bien, et c'est vrai, le média nous casse la tête, le média nous ment, et c'est pas vrai tout ce qu'il raconte. Et c'est grâce à ces radios, et puis avec nos contacts qu'on a maintenant, qu'on arrivera à casser ça.
Voilà, donc effectivement, toujours dans la ligne de cette émission, à un moment donné, quand même, voilà, si on est surpris d'avoir ce texte-là et qu'en même temps on le diffuse, c'est parce que ça continue de nous apprendre une seule chose, c'est qu'en réalité, on est face à des situations qui sont concrètes, qui sont réelles et qui font qu'effectivement, là, on commence à plus voir d'autres solutions que de s'organiser collectivement, d'essayer de faire des choses, parce que les gens voient bien que ça leur arrive frontalement, de façon ultra violente et sans aucun arrêt. Donc effectivement, tout le monde a l'air aussi de vouloir s'y mettre et donc diffuser ces informations-là, c'est quand même diffuser le fait que localement, il y a une envie, voilà.
Voilà, bah on arrive au terme de cette émission. J'entends le petit générique qui démarre dans mon casque, voilà, tout doucement. Et puis, bah voilà, ça veut dire que c'est l'heure de finir, de vous annoncer quelle sera la suite sur les ondes, puisque maintenant on a l'habitude de vous annoncer ce qu'on fera généralement un peu la semaine prochaine, sauf il se passe quelque chose de gros et que ça chamboule le programme.
Mais
plus ou moins,
tu veux faire avec nous,
voilà, plus ou moins, on essaiera de faire une interview donc des camarades ici présents pour vous diffuser peut-être un peu plus d'informations que ce qu'on a eu le temps de le faire ce soir. Et d'ailleurs, on les remercie d'être passés, c'était super. Ouais,
merci aussi, hein. Solidarité internationale.
Voilà. Mmh. Et puis justement, on essaiera aussi de diffuser donc du son qui a été pris par Raph à la manif à Aulnay-sous-Bois samedi dernier, donc sur la fermeture de la chaîne de montage PSA. Peugeot Citroën et donc grève appelée par les syndicats, mais où il y avait pas mal de travailleurs, donc bah, même beaucoup de PSA Aulnay qui étaient présents, donc on a pas mal de sons à vous diffuser là-dessus. Et puis bah voilà, on reviendra aussi sans doute avec une nouvelle rubrique FAF. Et puis
on passe la parole à Zéro Hebdo, hein.
Exactement. Va. Il est temps surtout de vous rappeler les adresses internet qui nous concernent. C'est www.aufondpresduradiateur pour télécharger cette émission et bien d'autres. Et le mail, c'est aufondpresduradiateur@no-log.org. On vous rappelle qu'on est rediffusé le vendredi de 7h à 8h30 du matin. Et spécialement, vu qu'on n'a pas été sur les ondes toute la première heure de cette émission, on sera rediffusé aussi vendredi à 16h30, de 16h30 à 18h sur l'antenne de Fréquence Paris
Pluriel.
Voilà, c'est cool. On passe une grosse dédicace à tous les copains qui n'étaient pas là ce soir. Tiffen, Raph, Mouloud, Sarah,
Meto,
Grand Homme, voilà, tout le monde.
Tout le monde.
Olive. Et puis bah tous les copains aussi, hein, Amaya.
Voilà,
Ocheminot,
on est super en retard. Alors des
tout le monde.
Des grosses dédicaces
à tous ceux qui sont derrière les barreaux et bis à tout le monde. Ouais. Ciao.
Ciao. Ciao.